Bonjour, c'est un homme très rare dans les médias, le commissaire et chef de la division nationale de lutte contre le hooliganisme Thibaut Delaunay a accepté de répondre aux questions de RMC Sport, une Ligue 1 émaillée de plusieurs faits de violence depuis le début de saison, marquée aussi par les incidents en marge de Marseille-Lyon au mois d'octobre et par la mort d'un supporter nantais. Depuis début janvier, la situation est plus calme avec des encadrements de supporters. La Ligue 1 doit quand même faire face au phénomène des embuscades à l'extérieur des stades qui font régulièrement la une de l'actualité. Le chef de la DNLH évoque tous ces sujets dans ce podcast inédit. Bonne écoute. Bonjour Thibaut Delaunay, merci de nous accorder cette interview.
Bonjour.
Nous sommes à 3 jours du classique de la Ligue 1 qui se fera une nouvelle fois sans des supporters adverses, sans les supporters parisiens. Pourquoi cette décision ?
Vous n'êtes pas sans savoir, donc bonjour à tous, vous n'êtes pas sans savoir que ces rencontres PSG-OM ou MPG dans les deux sens suscite un engouement particulier et que depuis de nombreuses années, un antagonisme fort oppose les supporters des deux clubs. Malheureusement, les matchs qui opposent ces deux équipes ont été souvent émaillés d'incidents, parfois d'incidents graves, et ce qui nous amène à prendre des décisions ou à prendre des mesures pour encadrer ces rencontres qui ne pourraient pas se jouer dans de bonnes conditions de sécurité en présence des supporters. Ça commence à remonter la dernière fois que les supporters ont pu se déplacer. On avait fait une tentative à l'occasion d'une rencontre de Coupe de France en 2018 au Parc des Princes. C'était les supporters marseillais qui avaient pu se déplacer. Malheureusement, cette rencontre avait également été émaillée d'incidents. Depuis, systématiquement, les matchs se déroulent sans les supporters adverses. On en est désolé, mais les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Et malheureusement, les incidents qui ont eu lieu en fin d'année, et notamment à l'occasion de la venue des supporters lyonnais, puisqu'on faisait un test avec le retour des supporters lyonnais à Marseille dans un nombre assez élevé, n'ont pas été, ce test n'a pas été concluant. Et donc, ça nous a amené à prendre une décision d'interdiction pour le déplacement de ces supporters parisiens.
Mais est-ce qu'un jour, on pourra revoir des Marseillais ou des Parisiens dans un classique ?
On l'espère.
Mais par exemple, du dialogue, est-ce qu'il manque un peu de dialogue entre toutes les parties ?
Je pense qu'il manque un peu de dialogue, mais il manque surtout de bonnes conditions de sécurité. Ça demande une préparation très en amont, mais c'est ce qui est déjà le cas, et on aura l'occasion d'y revenir, sur toutes les rencontres. Mais je pense qu'il faut aussi que les supporters se responsabilisent et prennent des engagements afin que ils nous donnent des gages de confiance finalement pour qu'on puisse les autoriser à se déplacer, puisque en l'état on n'a pas suffisamment de certitude sur le fait que ces déplacements se passent dans de bonnes conditions.
Et donc les Lensois pour le déplacement à Lille vous ont donné des gages de confiance?
Les Lensois pour le déplacement à Lille nous ont donné des gages de confiance. On avait déjà réorganisé le déplacement des Lensois à Lille la saison dernière. Ça s'est bien passé avec un encadrement strict. Le déplacement s'est bien passé. Il y a eu de vraiment très très peu d'incidents. Et donc ça nous conforte dans l'idée qu'on doit aller dans cette voie. Maintenant, le cas PSG-OM est encore différent. Et la configuration du stade, notamment à Marseille ou à Paris, entre en ligne de compte. On aura aussi l'occasion sûrement de revenir sur tous les éléments qui nous permettent d'analyser les risques autour des rencontres. Mais la configuration des lieux rentre dans cette analyse, puisque ce sont des stades très urbains, avec tout ce que ça implique comme difficulté d'accès pour les supporters et donc de sécurisation de ces supporters.
Quel bilan vous faites à la DNLH depuis le début de saison ? Au niveau des violences, est-ce que les violences sont plus fortes par rapport aux saisons précédentes, ou est-ce que c'est l'intensité de ces violences qui sont un peu plus impressionnantes ?
Alors, on ne constate pas forcément une augmentation des faits de violence depuis le début de la saison. En revanche, on constate une évolution de ces faits de violence. Alors, il y a une aggravation des faits, ça c'est très clair. On a une aggravation des violences, mais pas forcément une augmentation en volume. Et puis, on constate surtout un déplacement de ces faits de violence, déplacement plutôt à l'extérieur. Alors, on revient finalement à une situation qui était un peu antérieure à la période Covid. C'est un peu notre marqueur. Immédiatement après le Covid, on a eu, la saison qui a suivi, énormément d'incidents à l'intérieur des stades. De nouveau, on a retrouvé une situation un peu plus apaisée à l'intérieur des stades. Donc, de nouveau, cette violence s'est reportée à l'extérieur. il tient à nous maintenant de nouveau la juguler. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que depuis le début de la saison, on a énormément de faits d'incidents violents à l'extérieur des stades, et notamment un phénomène particulier qui est l'attaque des convois.
Ça vous surprend ça d'ailleurs ?
On le sentait monter, donc on n'est pas surpris par ce type d'agissement. Néanmoins, la violence de ces agissements doit être notée. Et on a constaté depuis le début de la saison environ 17 ou 18 attaques ou tentatives d'attaque de convoi, ce qui est énorme. Des fois avec des cas particulièrement graves. On peut penser notamment, évidemment, j'en ai parlé, à l'attaque des supporters lyonnais à Marseille, mais on a aussi les supporters havrais à Montpellier, les supporters niçois à Lyon. C'est des faits qui pourraient être dramatiques, puisque jeter des pavés ou des objets sur des bus avec des bris de vitres, alors que le bus circule sur l'autoroute ou sur une route, ça peut avoir un incident, enfin des incidences très graves. Donc c'est un phénomène qu'il est important de maîtriser et surtout d'endiguer, puisque encore une fois, ça pourrait être dramatique. Ce que je disais sur ce nouveau phénomène ou ce phénomène d'attaque de convoi de supporters, c'est un phénomène qui est pris en compte, sur lequel on travaille énormément. C'est pour ça, je l'ai déjà dit, qu'on met en place ces encadrements avec des escortes policières qui permettent de sécuriser l'arrivée des convois de supporters, ce qui nous permet d'entraver les tentatives d'attaque. On en a encore de temps en temps, mais globalement, on arrive à contrecarrer les velléités d'attaque de convoi des supporters locaux à l'arrivée des supporters visiteurs. En revanche, ce qu'on constate de plus en plus, c'est que maintenant, faute de pouvoir les attaquer avant, ben, on a de plus en plus de faits. Alors, est-ce que c'est des attaques concertées ou des faits isolés, mais de faits d'attaque de supporters alors qu'ils quittent le stade, où même s'il y a un pilotage policier, l'escorte est peut-être un peu moins fournie qu'à l'arrivée des supporters. Donc c'est un phénomène sur lequel on doit aussi être attentif. On a vu le cas, par exemple, lors du départ des supporters niçois de Lyon, lors du départ des supporters brestois de Montpellier, lors du départ des supporters marseillais de Clermont-Ferrand. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on soit aussi extrêmement vigilant. Il y a l'avant match où on a progressé, où on est de plus en plus efficace en termes de sécurisation de l'arrivée des convois.
Depuis le début de saison, combien vous avez mobilisé de policiers, par exemple, sur la Ligue 1 et la Ligue 2 pour sécuriser les matchs ?
Mais sur l'ensemble des matchs Ligue 1, Ligue 2, Coupe d'Europe, puisque c'est vraiment les trois compétitions majeures sur lesquelles on engage énormément de forces, on a mobilisé environ 43 000 policiers et gendarmes pour sécuriser ces matchs de foot, ce qui est un investissement énorme de l'État et du ministère de l'Intérieur. Alors, il y a une partie de cet engagement qui est rétribuée par les clubs, puisqu'on leur facture une partie de cet engagement. Néanmoins, pendant qu'ils assurent la sécurisation de ces rencontres, ils ne peuvent pas être employés à d'autres missions qui seraient des missions plus classiques de sécurisation de la voie publique pour l'ensemble des citoyens.
Est-ce que, par exemple, si on prend le match Marseille-Lyon avec les incidents à l'extérieur du stade, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre approche ? Par exemple, on a vu le match suivant quand on a le remake de OM où il y avait un dispositif plus impressionnant, où il y avait les rues qui étaient barrées. Est-ce que ça change quelque chose dans votre approche maintenant des rencontres à risque ?
Pas particulièrement. On était déjà conscient que ce type de phénomène existait. Ce qu'il est nécessaire d'avoir en tête, c'est de bien anticiper la préparation de ces rencontres. Et quand on parle d'anticiper la préparation de ces rencontres, ça passe aussi par bien étudier le cheminement emprunté par les bus de supporters, bien étudier le dimensionnement du dispositif de sécurité qui sera mis autour, et puis être sûr et s'assurer. Et c'est là, j'en reviens encore à l'engagement, parce que la police ne peut pas tout faire tout seul, les clubs ne peuvent pas tout faire tout seul, les autorités dans leur globalité, et là j'englobe le public, le privé, ne peuvent pas tout faire tout seul. Ça nécessite aussi un engagement des supporters et donc un respect des instructions qui leur sont données, des consignes qui leur sont passées. Si on a un non-respect du point de rendez-vous, si on a un retard par rapport à l'heure du point de rendez-vous qui va impliquer qu'on va arriver plus tard sur la zone aux abords du stade, ça va augmenter le risque quand les bus vont être à l'approche du stade. Donc c'est vraiment important que tout le monde s'engage. Et quand je dis tout le monde, c'est les autorités comme les supporters.
Et donc la discussion est... Comment la qualifier, cette discussion avec les supporters? Elle est fluide, elle est plus fluide qu'au début de saison, parce qu'on voit beaucoup d'arrêtés d'encadrement de supporters. Donc ça veut dire aussi qu'on autorise les supporters à se déplacer actuellement. Depuis le mois de janvier, on autorise les supporters à se déplacer après le moratoire. Mais est-ce qu'elle est plus fluide qu'au début de saison, cette discussion avec les supporters?
Alors, très clairement, je refais un petit bond dans le passé, mais lorsque le foot a pu reprendre normalement après la période Covid, on a eu tout de suite des incidents graves. C'était le début de la saison 21-22. Dans la foulée, on a eu une réaction de l'autorité publique de l'État qui a été d'augmenter significativement le nombre d'interdictions de déplacement. On a œuvré fort. Le ministre de l'Intérieur a fait des rappels par circulaire afin de rappeler que ces mesures d'interdiction devaient rester exceptionnelles et qu'on devait passer par une phase de préparation des rencontres avec des réunions très anticipées de manière à poser tous les éléments sur la table en concertation et de manière à prendre les mesures les plus adaptées. On est parvenu à cette évolution vers davantage d'encadrement et une réduction assez drastique des interdictions proprement dites. Malheureusement, cette saison a été marquée par deux événements dramatiques qui ont été à la fois l'attaque des Lyonnais à Marseille et puis surtout la mort d'un supporter à Nantes, ce qui derrière a entraîné cette période de moratoire où on a eu une interdiction systématique de tous les déplacements de supporters dès lors qu'un match était classé à risque, quel que soit le niveau de risque, hein, même au plus faible niveau de risque. Ça ne pouvait pas durer dans le temps, cette période. Forcément, cette période de moratoire avec ces interdictions systématiques, ça a un petit peu cassé le dialogue entre l'autorité publique et les supporters. Il était nécessaire de réinstaurer ce dialogue. Ça a été tout le travail qui a été mené, notamment par Madame la ministre des Sports et des Jeux Olympiques, dans le cadre de l'instance nationale du supporterisme, pour réenclencher ce dialogue avec les supporters et de revenir à une situation plus apaisée et à un dialogue plus fluide, ce qui permet, depuis la reprise de janvier, de limiter les interdictions de déplacement de supporters aux matchs qui le nécessitent réellement. Alors, on a encore, ici et là, quelques demandes qui sont peut-être abusives, mais globalement, on limite ces interdictions de déplacement aux matchs qu'il nécessite vraiment parce que les conditions de sécurité ne sont pas réunies. En revanche, on va privilégier l'encadrement, mais qui dit encadrement dit donc qu'on pose des règles dans le déplacement des supporters. Et donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut absolument que ces règles soient respectées, puisque ces règles ne sont pas faites pour entraver la liberté d'aller et venir des supporters, mais plus pour sécuriser leur déplacement et permettre ce déplacement et éviter ainsi ces attaques de convoi telles qu'on peut les connaître à l'occasion des rencontres.
On va essayer de faire un petit peu de pédagogie, d'expliquer à tout le monde comment vous fonctionnez, comment vous notez ces matchs. On prend l'exemple du match Lille-Lens qui a lieu ce vendredi. Quelle note il a, ce match?
Ce match, il est classé au niveau 4 sur une échelle de 5. Donc l'échelle des risques part du niveau 0. L'absence de classement est le niveau 0, donc un match qui... a priori, ne présente pas de risque identifié, et donc jusqu'au niveau 5, qui est le niveau le plus élevé. Ce match que vous évoquez est classé niveau 4, donc un niveau assez élevé sur notre échelle de risque.
Comment vous avez pris la décision de le classer niveau 4?
Alors, l'évaluation des risques, elle se fait selon un ensemble d'éléments, à la fois des éléments factuels d'antécédents entre les groupes de supporters des deux équipes, tout l'historique qu'on peut avoir entre les groupes de supporters des deux équipes, mais par que on va avoir les éléments sur le comportement des supporters d'une manière générale, des supporters des deux clubs, pas forcément simplement lors de leur confrontation, mais d'une manière générale, les supporters lillois lorsqu'ils sont à domicile, les supporters lensois lorsqu'ils sont à l'extérieur. On va étudier la topographie des lieux, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, l'environnement du stade, les accès sur le stade vont entrer dans la ligne, dans l'analyse. La situation sportive des clubs va évidemment rentrer en ligne de compte, puisque ça peut influer sur le comportement des supporters. Le contexte général social du moment, puisque on peut être sur des moments de tension, y compris sur d'autres domaines que le football, qui peuvent générer des comportements déviants de la part des supporters ou des mouvements d'humeur de la part des supporters du fait de la tension générale dans le pays. Et puis, on va surtout s'appuyer sur tout le travail qui est fait à la fois par mes équipes ici de la DNLH à Paris, d'analyse de toute notre base historique, mais aussi d'analyse des réseaux sociaux, d'analyse des provocations éventuelles qui peuvent apparaître ici et là. Et puis surtout sur le travail de terrain de mes correspondants locaux, puisqu'on a un réseau de correspondants sur l'ensemble du territoire. Et donc, pour ce qui concerne Lille et Lens, j'ai des correspondants locaux qui suivent au quotidien ces deux clubs. Et donc, ce travail de terrain, ils vont nous remonter un maximum d'informations qui va entrer en compte dans l'analyse. Enfin et surtout, on va avoir un échange à la fois avec la Ligue et les clubs, notamment à l'occasion des réunions préparatoires qui sont organisées autour du préfet de département qui accueille la rencontre. Et ces réunions préparatoires, de manière anticipée lors des matchs qui présentent une sensibilité particulière, vont permettre un partage de tous les éléments, un partage d'informations entre les différents acteurs pour essayer d'avoir une analyse la plus fine possible des risques entourant la rencontre. Quand je parle de ces réunions préparatoires, pour être bien clair, tous les matchs qui présentent un caractère de sensibilité doivent faire l'objet à minima de deux réunions préparatoires. La première, 3 semaines en amont de la rencontre, et la seconde, dans la semaine qui précède la rencontre.
Mais est-ce que vous pouvez comprendre que des supporters râlent un petit peu que ces réunions soient trop proches de la rencontre et donc l'arrêté tombe trop proche de la rencontre?
Alors, c'est pour ça que je vous dis, sur ces matchs qu'on signale bien en amont, puisqu'en fait, tous les trimestres, nous envoyons à toutes les préfectures pour le trimestre à venir tous les matchs qui présentent une sensibilité particulière. Donc c'est pour ça que tous ces matchs doivent faire l'objet d'une première réunion 3 semaines en amont de la rencontre, de manière à justement être suffisamment en capacité d'anticiper et de poser toutes les bases qui vont potentiellement amener à la prise de mesures administratives, que ce soit des arrêtés d'encadrement ou des arrêtés d'interdiction, et de manière à ce que ces arrêtés soient pris plus en amont. On doit faire mieux. Ça a déjà beaucoup évolué. Tout n'est pas encore parfait. On doit encore progresser sur ce point. Mais force est de constater qu'il y a une évolution sur ce point. J'en prends pour preuve, par exemple, l'interdiction de déplacement des supporters parisiens à Marseille pour ce classico qu'on évoquait en début d'entretien. L'arrêté ministériel a été publié lundi, soit 6 jours avant la rencontre, ce qui est assez...
Parce qu'avant, c'était souvent 3, 2 jours avant la rencontre.
Ça pouvait même apparaître parfois la veille de la rencontre. Donc, on essaie, et le ministre s'est engagé à essayer de publier ces arrêtés le plus en amont possible. Ça a été le cas pour cette semaine, puisqu'on a 2 matchs qui sont concernés par des arrêtés d'interdiction, à savoir OM-PSG et Nice-Nantes. 2 matchs pour lesquels il y a un arrêté ministériel d'interdiction qui a été pris. Les 2 arrêtés ont été publiés en tout début de semaine. Donc on est sur cette volonté et on va essayer de poursuivre sur cette volonté de manière à ce que les supporters, et je comprends la frustration de certains supporters qui des fois organisent leurs déplacements bien en amont, et c'est important qu'ils puissent organiser ces déplacements en connaissance de cause et pouvoir se retourner en cas d'évolution dans l'organisation de ce déplacement par les autorités publiques.
Il y a aussi beaucoup de supporters qui se posent des questions sur pourquoi en France on ne peut pas se déplacer en train. Pourquoi c'est si difficile ?
C'est une piste qui est évoquée régulièrement. Il n'y a pas de dogme sur le sujet. On n'est pas contre les déplacements en train. Simplement,
plus difficile à sécuriser que des déplacements en bus.
Ça va dépendre des déplacements. Ça va dépendre de la configuration de la rencontre. Évidemment, sur un déplacement très à risque, ça peut être un peu plus compliqué en train. On est Tout le monde peut aisément comprendre que les gares se trouvent en plein centre-ville et que organiser l'arrivée d'un groupe de supporters en volume important, un déplacement qui présente des risques particuliers par rapport aux supporters locaux, dans une gare en plein centre-ville, avec la mixité avec le reste des voyageurs, ça peut présenter un risque supplémentaire par rapport à une arrivée en bus, encadrée, escortée par les forces de police. Sur certains cas, ça va pouvoir être faisable. Maintenant, ça ne pourra pas être le cas sur tous les déplacements. Maintenant, c'est une piste qui est parfaitement envisageable et qui pourrait, au-delà des vertus écologiques que ça peut représenter, qui pourrait présenter pas mal d'intérêt dans certains cas.
Il y a souvent, quand on évoque les supporters, il y a souvent le rôle du policier référent supporter qui est mis en avant. Ça se développe très peu dans très peu de d'équipes en Ligue 1. Est-ce qu'il y aura une avancée dans les prochains mois?
Alors effectivement, le policier référent supporter visiteur, c'est une expérimentation qu'on avait lancée juste avant la période Covid, qui a malheureusement été interrompue. Cette expérience a été reprise à l'occasion de la saison 2022-2023 sur 8 sites. Donc c'est une expérimentation qui est en cours, qui montre, en tout cas sur tous les matchs sur lesquels le policier référent supporter visiteur, pour faire un peu d'explication, c'est un policier qui est dédié à l'accueil des supporters visiteurs et qui fait le lien entre les supporters visiteurs et le directeur du service d'ordre, donc le chef de la police locale qui organise la sécurisation de la rencontre. Donc ce policier qui est amené à faire le lien dans un sens comme dans l'autre, hein, pour passer des messages dans les deux sens. Pour le moment, à chaque fois qu'on l'a déployé sur les 8 sites qui sont ciblés, les résultats sont très positifs. Donc l'objectif est une généralisation de ce dispositif. Ça va demander un temps de recrutement et un temps de formation au sein des effectifs de police. C'est un dispositif qui est porté par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, évidemment, mais dans le cadre de la fondation Daniel Nivelle, une fondation qui avait été une fondation franco-allemande, dans des projets qui ont été menés avec la Fédération française de football, avec la Ligue de football professionnel. Donc, on est convaincu de l'intérêt de ce dispositif. Et donc, l'objectif, c'est une généralisation à minima sur les clubs de Ligue 1 pour la saison prochaine. Si on peut faire mieux, on n'hésitera pas à faire mieux.
Est-ce qu'en France, on est à l'abri de voir les incidents qui se sont déroulés en Turquie?
Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on est à l'abri de quoi que ce soit. Malheureusement, c'est un domaine qui est trop fragile pour qu'on puisse se targuer d'être à l'abri. En revanche, ce qu'il est important de dire, je pense, c'est que souvent, on s'autoflagelle, on se dit qu'on travaille mal en France, que les autres pays européens font beaucoup mieux que nous. Moi, je constate que bah, ce n'est pas vrai. Évidemment, tout n'est pas parfait. On a des choses qu'on doit faire progresser dans notre approche. Néanmoins, je constate qu'il y a aussi des incidents violents tous les week-ends en Allemagne, tous les week-ends aux Pays-Bas ou dans d'autres pays voisins. Et je ne vais pas jusqu'à parler des incidents en Turquie. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, on nous oppose les modèles étrangers, et y compris l'Angleterre, qui est le pays qui est l'exemple qui est souvent pris pour la façon dont ils ont lutté contre les phénomènes hooligans, y compris les Anglais, sont de nouveau confrontés à des phénomènes de violence assez régulièrement. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas acquis. On travaille bien, on peut encore mieux faire. Tous les week-ends, on a malgré tout des incidents qui nous prouvent qu'on doit encore progresser. Mais je pense que il faut arrêter de se dire que les autorités françaises, les clubs français, les organisateurs de compétition travaillent mal. Non, c'est pas vrai. Il y a un vrai travail qui est fait. Et je pense que ce travail portera ses fruits dans les mois et dans les années à venir.
Est-ce qu'on n'a pas peut-être un petit retard sur les interdictions individuelles de stades commerciales, qu'elles soient des trois types qui existent? Est-ce qu'on n'a pas un petit retard en revanche là-dessus sur l'individualisation de la sanction?
Alors, c'est un vrai sujet. Régulièrement, on échange avec les supporters d'ailleurs sur ce sujet-là. On est tous convaincus, collégialement, et nous, autorités également, on est tous convaincus que l'individualisation de la peine est la meilleure des réponses. Pourquoi? Parce que c'est toujours désolant de devoir punir collégialement un groupe au sein duquel il y a sûrement des éléments perturbateurs, mais au sein duquel il y a aussi des éléments qui ne sont pas forcément impliqués dans les incidents qui ont eu lieu. Pour ça, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts en termes de judiciarisation, en termes d'enquête, puis après de présentation à la justice et donc de condamnation. Mais c'est un travail qui est nécessaire. Oui, on a du retard sur les interdictions de stade, très clairement. On a actuellement en France un peu plus de 300 interdits de stade, ce qui, comparativement à nos voisins, et notamment alors, les Anglais qui ont tapé fort sur ce sujet, sont à plus de 3000 interdits de stade, ce qui est sans commune mesure avec notre pays. Mais même nos voisins belges, qui pour le coup, ont un volume de supporters inférieur au nombre de supporters français, ont quatre fois de plus d'interdits de stade qu'en France. Donc il y a un vrai effort à faire sur ce sujet. Ça va impliquer évidemment de mener encore plus d'enquêtes et d'aboutir à encore plus de condamnations, mais ça doit aussi impliquer les clubs qui doivent aussi s'emparer des dispositions qui sont à leur main, c'est-à-dire les interdictions commerciales de stade. Pour rappel, il y a trois types d'interdictions de stade. L'interdiction judiciaire qui est consécutive à une condamnation, l'interdiction administrative qui est une mesure préventive lorsqu'une personne est susceptible de présenter des risques de troubles à l'ordre public, le préfet peut préventivement prendre une interdiction administrative de stade. Et puis les clubs, lorsque un supporter contrevient aux conditions générales de vente ou au règlement intérieur du stade, qui peuvent eux aussi interdire les supporters de leur propre stade. Donc c'est ce mécanisme et ces trois modes d'interdiction se complètent et doivent être pleinement utilisés de manière à davantage individualiser les peines et réduire au maximum les sanctions dites collectives qui malheureusement touchent tout un groupe au lieu de cibler précisément les auteurs.
Vous êtes un service de renseignement, au final on peut dire ça, sur le monde du football.
Alors, on n'est à proprement parler pas un service de renseignement, on est un service de la sécurité
vous
publique.
Vous avez beaucoup de renseignements.
Mais on travaille avec les services de renseignement et on a une part de notre activité qui est une part de renseignement. Mais on ne se limite pas à cette matière du renseignement.
Mais est-ce qu'on a pu voir à Marseille, dans le parquage lyonnais, lorsqu'il y a eu les incidents, des propos à caractère raciste, on a pu voir des banderoles aussi. Est-ce que vous avez des remontées sur, par exemple, le mouvement identitaire qui est plus présent dans les tribunes de Ligue 1, est-ce qu'il y a ces remontées-là qui arrivent à vos services?
On travaille, comme je vous le disais, on travaille étroitement avec les services de renseignement. Donc, je ne vous dévoilerai pas, les techniques de renseignement, mais on est évidemment attentif à ces phénomènes qui ne sont pas forcément des phénomènes nouveaux, malheureusement. C'est simplement ces phénomènes sont davantage relayés sur les réseaux sociaux, sont davantage visibles parce que le foot est exposé, surexposé médiatiquement, et donc ils sont davantage relayés. Mais ce n'est pas un phénomène nouveau. Par contre, c'est un phénomène sur lequel il faut lutter. Et on utilise à la fois les techniques de renseignement, mais évidemment les techniques d'investigation pour contrevenir et pour interpeller et identifier les auteurs de ces agissements qui n'ont rien à faire dans les tribunes. Ces comportements n'ont pas leur place dans un stade de football et dans une tribune de football.
Lors des rendez-vous internationaux avec l'équipe de France, vous encadrez très souvent les supporters français. Comment vous sentez cet Euro 2024 au niveau de la sécurité? C'est un pays qu'on connaît bien, l'Allemagne, mais qui a aussi une bonne base de supporters avec des clubs où les supporters suivent vraiment leur club. Donc il y a aussi cet aspect du supporter. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi beaucoup d'incidents en Allemagne qu'on ne relaie pas beaucoup en France. Comment vous sentez cet Euro en Allemagne?
Alors oui, la DNH suit plus particulièrement les supporters de l'équipe de France, les accompagne à l'occasion des grandes compétitions, à la fois pour détecter éventuellement des profils à risque au sein même des supporters français, même si, fort heureusement, l'équipe de France est suivie par un public plutôt familial, un public d'amoureux du football qui n'a pas d'attrait pour la violence, et c'est tant mieux. Et donc, on va les accompagner pour faire le lien entre ces supporters et les autorités locales lorsque l'on se retrouve à l'étranger. À la fois pour relayer leurs demandes, s'ils ont des demandes particulières, notamment s'ils veulent organiser des fanwalks, des cortèges, de manière à organiser ça, cette sécurisation, identifier les itinéraires, et puis aussi leur passer les bons messages de prévention pour éviter qu'ils se retrouvent, eux, en difficulté. Parce que si eux ne présentent pas de risque particulier, ils peuvent se retrouver confrontés à des supporters à risque. Et cet Euro en Allemagne a cette particularité que c'est la première grande compétition depuis le Covid. J'en reviens toujours au Covid, mais c'est un peu notre marqueur depuis ces dernières années. C'est la première grande compétition où tous les pays vont pouvoir, ou en tout cas tous les supporters à risque des pays d'Europe vont pouvoir se retrouver, puisque le dernier Euro a été fait dans des conditions particulières, à la fois parce qu'il, du fait de son organisation, il était dispersé sur l'ensemble des pays d'Europe, et puis parfois avec des jauges limitées de spectateurs du fait de la pandémie. Et puis la Coupe du Monde au Qatar s'est fait dans des conditions aussi particulières, du fait de l'éloignement, du fait du coût de transport, ce qui fait que les supporters des pays d'Europe n'ont pas forcément fait le déplacement en nombre au Qatar. Pour ce qui est de l'euro en Allemagne, ça va être le carrefour. C'est un pays qui est central en Europe. Ça va être le carrefour de l'Europe. Tous les supporters des nations engagées vont se regrouper, voire même peut-être des supporters de nations qui ne seront pas qualifiés pour l'euro, mais qui voudront soit participer à la fête, soit venir troubler la fête. Donc on va avoir une grande vigilance. On travaille étroitement avec les autorités allemandes depuis de longs mois sur la sécurisation de cet euro. Nous, on va déployer une équipe spécifiquement dédiée au suivi des supporters français et à l'accompagnement des supporters français. On va dédier une équipe de 10 policiers qui vont les suivre, 8 policiers sur le terrain et 2 policiers qui seront au centre de coopération internationale où on va faire l'échange de toutes les remontées d'informations. Et donc, cet euro, oui, il présente une sensibilité très particulière du fait aussi des pays qui sont engagés dans cet euro. Maintenant, pour la très grande majorité, les équipes nationales ne sont pas suivies par des supporters présentant des niveaux de risque élevés. Il faudra être vigilant. Et puis, j'ai toute confiance dans les autorités allemandes pour que ce soit une belle fête pour tous les supporters de football.
Vous notez la Ligue 1, la Ligue 2, mais vous notez aussi des matchs amateurs ou des matchs de national. Vous notez un peu tout. Il y a peut-être qu'elles sont plus médiatisées, mais il y a aussi une montée de la violence dans le foot amateur. Est-ce que vous la constatez, vous aussi ?
Oui, on la constate. Alors, ça tient à plusieurs faits. Alors, oui, on note la Ligue 1, la Ligue 2. On note évidemment tous les matchs de Coupe d'Europe. Mais on note aussi déjà tous les matchs de Coupe de France qui vont mettre aux prises parfois des clubs amateurs et des clubs professionnels. Et puis, de plus en plus, on est amené à avoir un œil très attentif sur les divisions amateurs, que ce soit les divisions amateurs de niveau national, national, national 2, national 3, voire même les matchs de niveau régional, lorsqu'on a des alertes ou des remontées par, encore une fois, notre maillage territorial, puisque c'est là-dessus qu'on va s'appuyer, et encore plus sur ces divisions amateurs. Mais rien que sur le niveau national, comme vous le dites, c'est le fait déjà que des clubs, d'anciens clubs professionnels, ou qui ont d'ailleurs toujours le statut professionnel, soient descendus dans des divisions inférieures, alors que c'était des clubs qui drainaient des supporters organisés, des groupes de supporters dits ultra, ou ça, forcément, ça nous incite à avoir un œil plus attentif sur ces divisions. Ça va être encore plus le cas avec le passage à 18 clubs de la Ligue 1 et de la Ligue 2, où on va avoir une division, ne serait-ce que la division nationale, où on va avoir des clubs qui sont d'habitude structurés, en tout cas des groupes de supporters qui sont structurés et qui sont d'habitude engagés sur les divisions professionnelles. Donc forcément, ces divisions amateurs vont être de plus en plus touchées par ces phénomènes de confrontation de supporters. Il faut qu'on y soit très vigilant. On a cet œil sur le foot, mais on l'a aussi, enfin sur le foot amateur, mais on l'a aussi sur les divisions de jeunes, notamment, qui peuvent commencer à être touchés par ces phénomènes de violence, parce que les supporters de foot et notamment d'équipes professionnelles peuvent parfois se reporter sur les catégories jeunes de leur propre club, puisqu'ils sont supporters de l'entité club, sur les catégories féminines.
Vous l'avez sur d'autres sports ?
Et maintenant, sur d'autres sports, alors ça va par exemple être sur le cas des clubs qui sont omnisports, où on va avoir un report des comportements de supporters de foot, je ne parle pas encore de violence, mais en tout cas de comportements de supporters de foot sur d'autres disciplines. Ça, c'est pour le cas de clubs omnisports. Après, sur les autres disciplines, on est vigilant. C'est notamment le cas sur le basket, où dans le cadre des matchs de européens, on peut avoir des comportements déviants, notamment de la part de supporters étrangers qui viennent sur le territoire français, notamment de pays qui suivent particulièrement le basket. Je pense par exemple à la Serbie, je pense à la Turquie.
Et vous pouvez noter ces matchs?
Et on peut classer ces matchs. On n'est pas une unité qui est dédiée au football. On est multisport. Le football prend la très très grande majorité de notre activité, mais on suit les autres sports et on est amené à classer ces matchs, on est amené à surveiller ces rencontres. On a eu très très récemment des petits incidents lors d'un match Bourg-en-Bresse Béchiktaş en basket. C'est des alertes que nous devons suivre, et on avait un dispositif mis en place sur le match. Il faut absolument qu'on soit vigilant. Parce qu'on a un travail qui est réalisé sur le foot et on a des phénomènes de violence autour du foot. Il faut absolument qu'on anticipe une éventuelle contagion des autres sports pour ne pas en arriver à constater que les autres sports sont victimes des mêmes phénomènes. Donc il faut absolument travailler. Maintenant, le football est un laboratoire géant qui nous permet de mettre en place plein de process. Alors souvent, les supporters de foot disent on est stigmatisé ou on est... Mais en fait, les comportements que l'on constate dans le foot, bah, pour éviter qu'ils ne se reproduisent sur d'autres disciplines, on doit travailler sur cette discipline qu'est le football, de manière à trouver la bonne réponse et éviter que ça ne soit, que cela ne se reporte sur d'autres disciplines.
Et pour terminer, on est au cœur de votre service ici. Combien il y a d'agents à la DNLH?
Alors, la DNLH est une structure, une petite structure au niveau national, au niveau central, puisque nous sommes actuellement 12 personnels au sein de la structure, bientôt 15, puisqu'on a, on a des recrutements qui sont en cours de finalisation. Mais on s'appuie essentiellement sur notre réseau territorial, puisqu'on a un réseau territorial de correspondants dans chaque département, à raison de 2 correspondants par département. Donc c'est un réseau qui est assez important, et c'est tout ce maillage qui nous permet d'avoir des remontées de terrain importantes. Malgré tout, bien qu'on soit une petite unité au niveau central, ça ne nous empêche pas de nous déployer sur le terrain systématiquement à l'occasion des rencontres les plus à risque. On se déplace chaque week-end sur des matchs en appui de nos correspondants locaux pour venir nous-mêmes, parce que sinon, c'est en se nourrissant de ce qu'on constatera sur le terrain, c'est en allant sur le terrain voir la configuration des stades, voir l'organisation qui est mise en place, qu'on peut être de meilleurs conseils après à l'occasion des réunions préparatoires en préfecture. Et typiquement ce week-end, on sera présent à la fois sur le Lille-Lens de vendredi et sur le PSG Marseille de dimanche, Marseille PSG, pardon, de dimanche. Mais ça, je vous dis encore une fois, c'est notre structure nationale qui fait ce déploiement, mais on est présent réellement sur tous les matchs, puisque nos correspondants locaux, eux, sont présents sur l'ensemble des rencontres.
Mais quel est le quotidien d'un agent qui bosse ici à Paris sur votre service? C'est quoi? C'est l'échange avec les clubs? C'est permanent?
Son quotidien, voilà. L'échange, il est permanent. Ça va être l'échange permanent avec les clubs, l'échange permanent avec nos correspondants locaux. Ça va être participer à l'ensemble des réunions préparatoires qui sont organisées à l'occasion des rencontres. Je vous le dis, chaque rencontre fait l'objet à minima d'une réunion, et pour les rencontres sensibles, de 2 réunions. Pour vous donner un exemple, depuis le début de la saison, on en est à la 25e journée de Ligue 1 et 27 ou 28e journée de Ligue 2. C'est au bas mot, ne serait-ce que des matchs qui ont fait l'objet de minimum de réunions, c'est au bas mot 200 matchs, ce qui implique une participation à l'ensemble de ces réunions pour aider les autorités locales à organiser ces rencontres, leur préconiser des conseils, leur donner notre analyse de la rencontre qui va leur permettre de prendre les mesures les plus adaptées. On doit encore une fois travailler, on doit encore une fois être dans l'anticipation, mais c'est ça notre quotidien, c'est être dans ce travail d'échange permanent, à la fois avec les autorités publiques, avec les clubs, avec les organisateurs des compétitions, et puis aussi, parfois en direct, avec les supporters, que ce soit via l'Association nationale des supporters, ou parfois même les groupes de supporters en direct, qui n'hésitent pas à nous contacter pour essayer de faire avancer leurs possibilités de déplacement à l'occasion des rencontres.
Merci Thibaut Delaunay.
Merci beaucoup.